Le mystère des dunes par Richard Austin Freeman. Par un matin d'été, le 14 août, très exactement, nous traversions Thorndyke et moi le terrain de golf de Sandwich, nous dirigeant vers la mer. Thorndyke était venu nous rejoindre pour quelques jours dans la vieille ville où nous passions nos vacances. C'était sa dernière matinée avec nous, et nous étions sortis pour nous promener sur les dunes jusqu'à Shellness. À cette époque, l'endroit était désert. Quand, descendant des dunes, nous arrivâmes sur la plage, il n'y avait pas âme qui vive à l'horizon. Aucune trace de pas n'était venue s'inscrire avant les nôtres sur la bande de sable ferme laissée par la mer en se retirant. Nous avions fait une centaine de yards lorsque Thorndyke s'arrêta soudain et se mit à observer des empreintes de pieds nus sur le sable. « C'est peut-être un pêcheur de crevettes, » fit-il. Mais il n'a pas pu venir de Pegwell puisque la rivière lui barrait la route. Il est venu de la mer et on dirait qu'il est allé droit vers les dunes. Pourtant, il a choisi une drôle d'heure pour pêcher la crevette. Comment cela, une drôle d'heure? Il est sorti de la mer ici, fit Thorndyke en jetant un coup d'œil sur sa montre, hier soir, entre 11h30 et minuit. Au nom du ciel, Thorndyke, m'écriai-je, comment savez-vous ça? C'est évident, Einstein, répliqua-t-il. Il est 9h30. La marée haute est à 11h. Nous l'avons vu avant de sortir. Et vous voyez que ces empreintes de pas s'arrêtent brusquement, ou plutôt commencent à environ 2/3 de la distance qui sépare la trace laissée par les hautes eaux du bord de l'eau. Comme elles sont très nettes, elles doivent avoir été faites après la dernière marée. Mais comme elles ne vont pas jusqu'au bord, elles doivent avoir été faites pendant que la mer se retirait. L'endroit où les traces commencent n'est autre que celui où se trouvait le bord de l'eau quand les empreintes ont été faites. Et d'après la distance, nous pouvons juger qu'il était à ce moment 1 heure environ après la marée haute. La marée haute de ce matin est à 11h. Celle d'hier soir était donc à 10h40 environ. Il était donc aux environs de 11h40 quand notre homme est sorti de l'eau. « Ma parole, Thorndyke, vous êtes étonnant, » fis-je en riant. « Pas du tout, mon cher, l'habitude, tout simplement. » Entre-temps, nous avions poursuivi notre promenade en nous rapprochant des dunes. Tout à coup, dans un creux, j'aperçus un tas de vêtements, d'ailleurs bien rangés, et que je jugeais de ce fait appartenir à quelques baigneurs. Nous nous en approchâmes. « Encore un mystère pour vous, » fis-je. « Trouvez le baigneur, moi je n'en vois pas. » « Il n'est certainement pas là. Voilà des vêtements qui ont passé la nuit dehors. Voyez-vous cette petite toile d'araignée sur les souliers? Il y a encore quelques gouttes de rosée dessus. Voyons la plage. » Nous revînmes vers le bord et aperçûmes distinctement une ligne d'empreintes de pieds nus se dirigeant droit vers la mer, mais cessant brusquement à environ 2/3 de la distance. « Ce doit être notre pêcheur nocturne. Il a dû sortir en mer ici et revenir là-bas. Mais alors il aurait oublié ses vêtements. C'est bien curieux. » « En effet, » dit Thorndyke. « Voyons si les empreintes sont bien les mêmes. » Étirant de sa poche un mètre à ruban métallique, il se mit en devoir de mesurer les deux empreintes les plus nettes. Puis il revint vers les premières empreintes et les mesura également. On dirait bien que ce sont les mêmes. Mais je me demande où l'homme a pu passer. Il n'est pourtant pas parti sans ses vêtements, à moins d'être fou. Il est peut-être retourné en mer et s'est noyé. Continuons vers Shellness. Nous trouverons peut-être encore des traces. Mais après avoir fait près d'un demi-mille sur la plage, nous n'avions pas trouvé la moindre trace nouvelle. Revenus sur nos pas, nous observions de nouveau les mystérieux vêtements, lorsque nous aperçûmes au loin, dans les dunes, deux hommes, qui nous voyant arrêtés, s'approchèrent bientôt. Je reconnus l'un d'eux, un avocat nommé Hallett, que j'avais rencontré au palais. Son compagnon était un avoué de Londres nommé Morris. Les présentations s'échangèrent. « Qu'est-ce qui se passe ? » demanda Hallett, après un regard aux vêtements et à la plage déserte. « Où est donc le propriétaire de ces vêtements ? » ?»« Il semble avoir disparu. »« J'espère qu'il n'est pas rentré en ville tout nu, » fit Hallett. Maurice, qui portait à l'épaule un sac de golf, se pencha sur les vêtements très intéressés. « Dis donc, Hallett, » fit-il, « je crois bien que je reconnais ces vêtements-là, le gilet surtout. Je vous ai vu jouer il y a 2 jours avec le type qui les portait, un grand brun, rasé. » Il s'appelait quelque chose dans le genre de Popov. Roscoff, mais oui, fit Hallett, vous avez raison. Et je me souviens même qu'il m'a dit qu'il venait de temps en temps se baigner ici. Il m'a dit qu'il aimait beaucoup canoter au clair de lune. Je lui dis que c'était d'une imprudence folle. C'est bien ce qu'il a l'air d'avoir fait, dit Thorndyke. Ses vêtements ont passé la nuit ici, voyez la toile d'araignée. »
Alors il lui est certainement arrivé un malheur, dit Alette.
Il y a un courant formidable ici, vous savez.
Il se dirigea vers la plage, suivi de Maurice.
Aucun doute, ajouta-t-il. Les traces de pas vont droit vers la mer,
mais il n'y en a pas en sens inverse.
Il y en a un peu plus loin, dit Thorndyke. Probablement celle d'un pêcheur de crevettes.
Roscoff n'a pas dû revenir.
Qu'allons-nous faire?
Emmenons les affaires au vestiaire du golfe et prévenons la police.
Nous revînmes prendre les vêtements.
Vous aviez raison, Maurice, fit Alette en ramassant la chemise. Son nom est marqué P. Roscoff, sur le gilet de flanelle et le caleçon aussi. Je reconnais aussi la canne.
Conduit par Alette, nous arrivâmes au vestiaire et pénétrâmes dans une pièce garnie de casiers et dont une large table occupait le centre. Alette, tirant une clé de sa poche, ouvrit un des casiers.
Avant d'enfermer les vêtements, fit Thorndyke, si nous en faisions une liste que nous signerons,
nous verrons aussi le contenu des poches.
Très bien, fit Alette. Vous connaissez la procédure à suivre en pareil cas.
Dictez-moi, j'écris.
Thorndyke commença par énumérer les divers objets. Veston et pantalon de tweed, gilet de laine tricoté, rayé noir et jaune, chemise de coton bleu, gilet de flanelle et caleçon marqué à l'encre, P. Roscoff, chaussettes de laine marron, souliers marron, casquette de tweed et canne recourbée.
La liste établie, Thorndyke étala les vêtements sur la table et se mit à vider les poches, passant les objets à Maurice qui les déposait sur un journal. Dans les poches du veston se trouvait un mouchoir marqué PR, un portefeuille contenant quelques timbres, une ou deux notes d'hôtel et des factures, et quelques cartes de visite au nom de M. Peter Roscoff, Bel Hôtel, Sandwich. Il y avait encore un étui à cigarette en cuir, un crayon numéro 3B, muni d'un protège-pointe et un morceau de fusain.
« Tout ça ne nous dit pas grand-chose, » fit Maurice.
Déposant le portefeuille, il examina un canif que Thorndyke venait de tirer d'une poche du pantalon.
« Drôle de canif. Une lame d'acier, bien affûtée, une lime à ongles et une lame d'ivoire.
Je ne comprends pas très bien ce coupe-papier pliant.
C'est peut-être un couteau à fruits, » fit Alette en examinant quelques pièces d'argent que Thorndyke venait de découvrir.
« Mais je me demande ce qui a bien pu noircir ces pièces de monnaie.
Il prenait peut-être un médicament contenant du soufre. Qu'en pensez-vous, docteur ?»«
C'est bien possible, » répondit Thorndyke.
« Pourtant, la boîte d'allumettes que voici, qui se trouvait dans l'autre poche, n'est pas noircie du tout. »
Il tendit à Alette une petite boîte d'argent portant les initiales gravées PR, dont l'éclat contrastait avec la couleur noirâtre des pièces. Alette inscrivit encore une montre et un trousseau de clés trouvé dans la poche du veston, puis posa son stylo.
« C'est bien tout, » fit-il, en se mettant en devoir de ramasser les vêtements. « Mais regardez-moi le sable qu'il y avait dans ces vêtements. La table en est couverte. Faut-il que je mette tout ça dans mon casier, maintenant ?»«
Comme je serai obligé de témoigner, je voudrais bien les examiner encore une fois, » fit Thorndyke.
« Je vois qu'il y aura des témoins hautement compétents, » fit Alette en souriant.
« Allez-y, et prenez-moi quand vous aurez fini.
Moi, je sors fumer une cigarette. »
Maurice l'imita et je l'ai suivi, malgré toute ma curiosité. Mais comme nous n'allâmes pas plus loin que le jardin entourant la maison, je pus la satisfaire en observant Thorndyke par la fenêtre.
Thorndyke procéda avec méthode, et il commença par étaler sur la table un journal. Il y déposa le veston, qu'il examina avec attention. Il en retira un petit objet, et observa plus particulièrement une épaisse tache de peinture que j'avais moi-même remarquée sur la manche gauche. Puis il mesura les manches et les autres dimensions. Enfin, tenant le veston renversé à la main, il le battit doucement de sa canne en faisant tomber une véritable pluie de sable. Il mit ensuite le veston de côté et recueillit le sable dans une enveloppe qu'il tira de sa poche. Il y plaça également le petit objet qu'il avait retiré du veston et inscrivit quelques mots sur l'enveloppe. Il répéta l'opération avec tous les autres vêtements, changeant chaque fois de papier. Il examina en particulier l'intérieur de la casquette dont il me parut retirer deux ou trois cheveux. Il mesura également la canne et examina à la loupe les deux faces du fameux canif. L'examen terminé, il vint nous rejoindre.
« Eh bien, docteur ?» demanda Alette.
« Qu'est-ce que c'est ?
Un accident ou une crise de folie subite ?»«
J'attends un complément d'enquête, » fit Thorndyke en hochant la tête.
« J'ai plié les vêtements et tout enveloppé, sauf la canne. »
Alette alla enfermer les objets, puis ressortit.
« Nous devrions aviser la police, »
fit-il l'air indécis.
« Quand croyez-vous que la mère ramènera le cadavre ?»
On ne peut pas savoir. Le courant bat vers la Tamise, mais le corps peut apparaître en n'importe quel point de la côte. Je vais envoyer un mot au coroner en donnant mon adresse. Faites-en autant. Après, nous n'aurons plus qu'à attendre la citation. » La matinée était finie. Nous reprîmes le chemin de la ville. Aussitôt après nous être séparés de Alette et de Maurice, nous rencontrâmes ma femme et nous nous dirigeâmes vers la maison pour y déjeuner. La conversation roulait naturellement sur les événements de la matinée, mais je remarquai que Thorndyke ne mentionnait pas son examen des vêtements et m'abstint d'y faire allusion. Je ne pus le questionner à ce sujet que le soir en l'accompagnant à la gare. « Les vêtements, me répondit-il, m'ont donné une idée. J'ose à peine le dire tant c'est étrange, mais j'ai bien l'impression que les vêtements trouvés n'appartenaient pas tous au même homme. Ils sont deux. L'un est d'ici et l'autre vraisemblablement vient de la côte orientale du Thanet, entre Ramsgate et Margate, et de préférence de Dumpton ou de Broadstairs. Mais comment diable pouvez-vous être si précis ? C'est surtout à cause du sable que j'ai trouvé dans les vêtements. Voyez-vous, le sable, comme la poussière, est composé d'une infinité de débris. L'examen du sable révèle la nature des roches de la côte. À cet égard, le sable que j'ai trouvé dans ces vêtements est très caractéristique, et son examen au microscope m'en apprendra sans doute encore plus long. « Mais enfin, objectai-je, le même homme a pu porter des vêtements différents en différents endroits et à des moments différents. » L'arrivée du train interrompit cette discussion qui ne fut jamais reprise. Dès mon retour en ville, mes affaires m'absorbèrent, et j'aurais probablement oublié toute l'histoire si une circonstance fort inattendue n'était venue me la rappeler. Un après-midi, vers la mi-octobre, je reçus la visite de mon vieil ami Brodribb, l'avoué bien connu. Après nous être entretenus de l'affaire qui l'amenait, il me dit « Je suis attendu dehors par un de mes clients que je vais présenter à Thorndyke. Voulez-vous nous accompagner ?»« De quoi s'agit-il » demandai-je. « Ma foi, je n'en sais rien. Il ne veut rien dire. C'est pourquoi je l'emmène chez notre ami. Je n'ai jamais vu Thorndyke rentrer bredouille, mais je crois bien que cette fois, je vous accompagne, » dis-je, intéressé. Dans l'antichambre, Brodribb me présenta un homme entre deux âges, d'allure distinguée. Nous nous empressâmes de nous rendre chez Thorndyke, que nous trouvâmes en train d'étudier un testament à la loupe. « Mon cher, » fit Brodribb, sans préambule, « je vous ai amené mon client, M. Capes, qui désirait vous voir résoudre certains problèmes. » « De quelle nature est ce problème ?» fit Thorndyke après avoir salué le client. « Ça, » fit Brodribb avec un clin d'œil malicieux, « c'est à vous de le découvrir. » M. Capes est très discret. M. Capes sourit. En effet, fit-il, je ne peux pas vous dire grand-chose. En vous en disant trop, je craindrais de livrer un secret qui ne m'appartient pas. Je vous comprends, fit Thorndyke, mais vous pouvez sans doute me donner une idée générale de la question. J'essaierai, dit M. Capes. Voici. Un homme avec lequel je désire communiquer a disparu d'une façon très étrange. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il était en villégiature au bord de la mer. Dans sa lettre, il m'annonçait son retour à Londres pour le lendemain. Quelques jours après, je me rendis chez lui. Il n'était pas encore revenu, mais ses bagages étaient arrivés au jour indiqué. Il a donc certainement quitté sa villégiature, mais depuis ce jour, je n'ai eu aucune nouvelle de lui. Il n'est pas revenu à son appartement et n'a pas non plus donné signe de vie à sa propriétaire. « Il y a combien de temps de cela ?» demanda Thorndyke. « 2 mois environ. Pouvez-vous me dire d'où il vous a écrit ?» « Je préfère ne pas vous le dire. Certaines circonstances qui ne me touchent pas, mais qui le touchent, lui, de très près, exigent que j'en dise le moins possible. Et c'est tout ce que vous pouvez nous dire. Oui. Cependant, je dois ajouter que si j'arrivais à le voir, je pourrais lui donner un avis très précieux qui l'empêcherait peut-être d'entreprendre une démarche dont il vaudrait mieux pour lui s'abstenir. » Thorndyke s'abîma dans une profonde méditation. Brodribb l'observait sans dissimuler sa satisfaction. Soudain, mon collègue leva les yeux. « Monsieur Capes, demanda-t-il, avez-vous déjà joué aux devinettes ?»« Oui, » fit Monsieur Capes, assez surpris, « mais je ne vois pas très bien. »« Voulez-vous que nous jouions ensemble ?» poursuivit Thorndyke avec un calme parfait. « Je vais vous poser quelques questions, et vous me répondrez par oui ou non. »« Je ne peux rien vous promettre, » fit Monsieur Capes après un instant de réflexion. « Mais enfin, posez-moi toujours une ou deux questions, j'essaierai d'y répondre. » « Bon, » fit Thorndyke. « Eh bien, si je vous demandais, pour commencer, si la lettre que vous avez reçue portait bien la date du 13 août, oui ou non ?» M. Capes se dressa d'un bond et considéra Thorndyke bouche bée. « Comment diable avez-vous pu deviner ? C'est inouï. Mais vous avez raison, la lettre était du 13. »« Bon, » fit Thorndyke. Et maintenant, si je vous disais que la lettre venait des environs de Broadstairs ?» M. Capes eut l'air littéralement foudroyé. « Mais ce n'est pas possible » s'exclama-t-il. « Vous n'avez pas pu deviner ça, vous le saviez. Vous saviez qu'il était à Broadstairs, et je n'ai pas prononcé de nom. »
« Je pense à quelqu'un, » dit Thorndyke, « qui a peut-être disparu de Broadstairs. Voulez-vous que j'essaie de vous le décrire ?»
M. Capes acquiesça avec empressement.
« C'est un artiste, » poursuivit Thorndyke, « un peintre et très soigneux de ses couleurs.
5 pieds 7 pouces environ, plutôt corpulent, blond, un peu chauve, portant une longue moustache embroussaillée. »
M. Capes, très exactement,
n'en revenait pas.
« Nous non plus, d'ailleurs. » Il eut un silence assez long au bout duquel Capes finit par dire
« Votre description est en tout point exacte, je n'y comprends rien. Vous devez certainement connaître cet homme.
Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ?»«
Mais je ne crois pas l'avoir jamais rencontré, » dit Thorndyke, « pure hypothèse. J'ai certaines raisons de croire que cet homme a quitté Broadstairs le 14 août, et je crois savoir ce qu'il a fait ensuite. Mais poursuivons. Il a envoyé ses bagages à Londres. Il avait donc peut-être l'intention de ne pas rentrer directement. Son détour avait peut-être pour objet une entrevue avec une autre personne, qu'en pensez-vous ?
Je ne saurais vous dire, mais c'est probable.
Et en supposant que cette entrevue ait eu lieu, croyez-vous que c'était une entrevue amicale ?
Je crains que non.
Je soupçonne ce monsieur d'avoir fait certaines propositions inacceptables, mais dont il aurait pu se croire fondé à exiger l'acceptation.
Mais ce n'est qu'une supposition.
En somme, il ne vous manque que son nom, mais je préférais ne pas vous le révéler.
C'est inutile pour l'instant, du moins, dit Thorndyke.
Vous disiez que vous croyez savoir ce qu'il est devenu,
je crois.
Mais je dois vérifier l'exactitude de mes suppositions. Je vous tiendrai au courant.
M. Capes, renonçant à en apprendre davantage, remit sa carte et s'éloigna.
Le dimanche suivant, comme au premier acte de ce drame, nous suivions de nouveau, Thorndyke et moi, le sentier qui va de Sandwich à la mer. Mais cette fois, le major Robertson, le célèbre éleveur de chiens, nous accompagnait avec un de ses fox les mieux entraînés. Arrivés sur la plage, nous reprîmes le même chemin que l'autre jour. Thorndyke, tout à coup, s'arrêta.
« Nous y sommes, » dit-il. « J'avais pris un point de repère, l'arbre que vous voyez là-bas. Les vêtements étaient là, dans ce creux. »
Pour mieux marquer l'endroit, Thorndyke escalada la dune la plus proche et y planta sa canne.
« Voilà le centre autour duquel nous allons rayonner, » fit-il.
« S'il y a quelque chose d'enfoui, ce ne peut être que par ici.
Allons. »
Le major attacha une longue laisse au cou du chien et nous partîmes, décrivant des cercles concentriques en nous éloignant de plus en plus de la dune. Le chien flairait de tous côtés. Cependant, au bout d'une demi-heure, nous n'avions toujours rien trouvé et je commençais à douter du résultat de nos recherches. Nous étions au sommet d'une dune. Devant nous s'étendait un creux assez profond, dont le fond plat et nu était garni d'une couche unie de sable d'un gris jaunâtre. Tout à coup, sur la pente, le chien s'arrêta et, pointant en l'air son museau, se mit à flairer d'un air inquiet. Le major détacha la laisse et le chien, abandonné à lui-même, se mit à courir de tous côtés en flairant le sol, en proie à une excitation croissante. Arrivé près du centre du creux, il s'arrêta brusquement et se mit à fouiller le sol. Poussant un cri d'enthousiasme, le major dévala la pente et nous derrière lui. Thorndyke, tirant de sa poche une petite pelle gainée de cuir, se mit en devoir d'approfondir le trou. Ayant ainsi creusé une petite cavité profonde d'environ 1 pied et demi, il enfonça son instrument.
« Il y a quelque chose !» s'écria-t-il.
Je saisis la poignée et en appuyant constatai une résistance très nette, mais semblant provenir d'un objet mou. Thorndyke se remit à fouiller de plus belle, et 10 minutes après nous reconnaissions le contour d'une épaule. La tête se dégagea bientôt et nous eûmes sous les yeux la vision atroce d'un visage humain qui nous regardait du fond de cette fosse. Et cette face, malgré l'affreuse altération de ses traits, correspondait bien à la description qu'avait faite Thorndyke. Joues pleines, cheveux d'un brun jaunâtre, longue moustache blonde et au sommet du crâne, une légère calvitie. Mais il y avait encore autre chose. La tempe gauche, juste derrière le sourcil, portait la marque d'une blessure informe, comme celle qu'aurait pu faire un coup de marteau.
« La mort a dû être instantanée, » fit Thorndyke en tâtant le crâne.
« Le crâne est fondu, et voici l'arme du crime, » ajouta-t-il en tirant du sable un énorme boulon à 6 pans, prudemment enterré avec la victime.
« Maintenant, l'affaire ne nous concerne plus. »
Place à la police.
« Voyez-vous, Anstey,
le corps n'est vêtu que du gilet de flanelle et du caleçon.
La chemise a disparu. C'est bien ce que j'attendais.
Nous revînmes lentement vers la ville.
Dès que nous fûmes seuls, j'interrogeai avidement Thorndyke.
Commençons par les empreintes, puisque c'est là le fait qui a attiré notre attention.
Vous vous souvenez que je les ai mesurées.
J'avais donc les dimensions des pieds du soi-disant baigneur.
Mais en voyant les souliers qui étaient censés lui appartenir, je me suis aussitôt rendu compte que jamais ses pieds n'auraient pu y entrer.
Second fait, très frappant,
le baigneur était certainement revenu à terre et y était resté, mais il n'avait pas remis ses vêtements.
Il ne pouvait cependant pas être parti tout nu.
Circonstance profondément anormale qui suggérait aussitôt le crime.
Comparant la canne trouvée sur la dune à la mienne, je constatais qu'elle était à peine plus courte.
C'était donc la canne d'un homme grand, la canne de l'homme aux empreintes et non celle de l'homme aux souliers.
Au vestiaire, nouvelle constatation caractéristique.
Le sable qui s'échappe des vêtements ne ressemble pas du tout à du sable de dune.
Le sable de dune, transporté par le vent, est très fin, composé de grains égaux et arrondis. De plus, il est très pur.
Le sable de plage, au contraire, est souvent très gros et très irrégulier.
Il est souvent mélangé de corps étrangers provenant du voisinage.
Or, celui que j'avais sous les yeux était rempli de particules blanches et noires.
Les particules blanches, c'était de la craie, les noires, du charbon.
Or, il y a très peu de craie dans le sable de Chalness.
Il n'y a pas de falaise dans le voisinage.
Quant au charbon, il vient des bateaux naufragés sur la côte. Il descend au fond jusqu'au jour où une tempête d'est le jette sur la côte de Thanet, entre Ramsgate et Furnace Point, le plus souvent à Dumpton et à Broadstairs, où l'on voit l'hiver les pauvres gens ramasser des galets de charbon pour se chauffer.
Voilà donc un sable qui naît de la côte de Thanet.
Mais l'homme disparu, Roscoff, était resté à Sandwich et avait joué au golf sur les dunes.
Nouvelle étrangeté qui me décida à faire un examen complet et détaillé des vêtements.
Et voici ce que je trouvais.
Le veston, le pantalon, la casquette du même tissu, les chaussettes et les souliers appartenaient à un homme court et assez corpulent.
Le gilet, la chemise, les sous-vêtements et la canne appartenaient à un homme de haute taille.
Les vêtements du premier étaient chargés de sable de plage de Thanet et ne contenaient pas de sable de dune.
Le gilet était plein de sable de dune et il y en avait également un peu dans la chemise et les sous-vêtements.
Donc il y avait uniquement du sable de plage dans les vêtements du petit et uniquement du sable de dune dans ceux du grand.
Les vêtements du petit n'étaient pas marqués. Ceux du grand l'étaient ou étaient facilement reconnaissables, comme la canne.
Les vêtements abandonnés appartenant au petit étaient ceux qu'un homme de haute taille n'aurait pu porter sans attirer immédiatement l'attention.
Au contraire, les vêtements disparus étaient de ceux qu'un homme de haute taille pouvait mettre sans attirer l'attention.
Gilet, chemise et sous-vêtements.
Donc le grand était parti vêtu de la chemise et du gilet du petit.
Dans la casquette, je trouvais 5 cheveux blonds, dont 2 du type atrophié en point d'exclamation,
des cheveux qui poussent au bord d'une calvitie.
Donc l'homme était blond et en partie chauve. À l'intérieur du veston, je trouvais un long poil de moustache.
Il y avait sur le bord de la manche gauche une accumulation de taches de peinture, comme peut en faire un peintre en passant la main qui tient le pinceau au-dessus de sa palette.
C'était donc un peintre gaucher.
Hypothèse confirmée par la présence d'un crayon 3B, crayon d'artiste et d'un morceau de fusain.
Les pièces d'argent de sa poche étaient noircies par le voisinage avec une gomme de dessinateur en caoutchouc vulcanisé.
De plus, le canif était composé d'une lame d'acier à tailler les crayons, d'une lime à fusain et d'un couteau à palette en ivoire.
Et le couteau à palette était usé sur le bord intérieur droit et le bord supérieur gauche, au lieu de l'être sur le bord supérieur droit et sur le bord inférieur gauche.
L'homme était donc gaucher.
De plus, le couteau à palette en ivoire n'est utilisé que par des peintres très soigneux qui savent que l'usage d'une lame d'acier peut décolorer les cadmiums, par exemple.
J'étais stupéfait d'entendre Thorndyke rassembler avec une logique impeccable les éléments de sa déduction, que je croyais issue d'une série de hasards extraordinairement heureux.
« Et le mobile du crime ?» demandai-je enfin.
« C'est difficile à dire, mais d'après les allusions de Capes, il semblerait que notre peintre ait été un maître chanteur, qu'il soit venu ici pour extorquer de l'argent à Roscoff et que ce dernier, après l'avoir attiré sur la dune, l'ait supprimé pour s'en débarrasser. Mais ce n'est qu'une supposition. »
Cette hypothèse se trouva entièrement confirmée dans la suite par la déposition de Capes.
La victime, Joseph Bertrand, savait que Roscoff avait été en prison et en avait profité pour lui extorquer de l'argent.
Capes n'en savait pas plus.
Quant au personnage qui se cachait sous le nom de guerre de Roscoff, la police ne l'a jamais retrouvé. Ainsi s'achève Le mystère des dunes par Richard Austin Freeman.